On va lire 2 Corinthiens ce matin, chapitre 2 et versets 12 à 17. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ, devant Dieu. On va s'incliner encore une fois dans la prière. Seigneur, merci de ce culte, merci pour mes frères et sœurs, merci pour ces cantiques, merci pour ce beau cantique que nous venons de chanter. C'est vrai, Seigneur, nous étions étrangers, loin de toi, asservis dans nos péchés, et tu as eu pitié de nous, Seigneur, et maintenant nous sommes citoyens des cieux, et Seigneur, merci pour cette espérance que tu mets dans nos cœurs, et merci d'être tes enfants, de t'appartenir. Merci d'avoir la parole de Dieu. Merci d'avoir ton esprit dans nos cœurs, d'être celui qui nous guide, qui nous conduit. Et Seigneur, je te demande et nous te demandons grâce. Seigneur, que tu veuilles bénir encore ces instants. Et Seigneur, comme dit le cantique, si je regarde un instant à moi-même, je suis perdu. Mais nous regardons à toi. Et Seigneur, nous te demandons que tu nous bénisses, non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous aimes au travers de ton Fils Jésus-Christ. Tu nous as élevés Seigneur jusqu'à être tes enfants, ses frères. Seigneur, et nous te bénissons, nous t'en remercions. Seigneur, que tu veuilles nous bénir, nous tes enfants ce matin, à cause et par Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alors il faut reprendre encore un petit peu le contexte pour comprendre notre texte de ce matin. On a déjà dit que c'est l'une des épîtres les plus personnelles de l'apôtre Paul, donc cette épître, deuxième épître à Corinthe, aux Corinthiens. On voit Paul qui ouvre son cœur, qui exprime sa peine, sa souffrance à une église qui s'était refroidie à son égard, une église qui avait des difficultés. Hein, et Paul souffre, vraiment il souffre. Et on est probablement ici, avec cette lettre, à un des moments de sa vie où il souffre le plus. Il est déchiré dans son cœur. Et dans l'exposition de son cœur, ça contraste aussi avec la vie et le cœur certainement de ces hommes qui l'attaquaient, de ces faux apôtres ou faux ouvriers, qui eux le salissaient, le critiquaient, essayaient de l'enfoncer aux yeux des Corinthiens. Et Paul a le cœur lourd, il a vraiment beaucoup de peine. Et alors, il fait parvenir cette lettre aux Corinthiens, mais avant cela, il a fait parvenir une autre lettre, et une lettre qui était sévère, peut-être la première épître, peut-être une épître entre les deux, on ne sait pas. Mais donc, il a fait parvenir une autre lettre qui était très sévère, et il se demandait, mais comment ont-ils pris ma lettre? Comment l'ont-ils reçue? Est-ce qu'ils l'ont bien reçue? Est-ce qu'ils ont été touchés? Est-ce qu'ils se sont repentis? Est-ce qu'ils se sont braqués? Donc, il a tout plein de questions dans son cœur, certainement. Est-ce qu'ils se sont repentis de leur débauche? Est-ce qu'ils ont bien compris ce que je leur ai expliqué sur la résurrection? Est-ce que maintenant, ils ont décidé de prendre la scène d'une manière qui est sérieuse, respectueuse? Est-ce qu'ils ont, ont ouvert les yeux et repoussé ces faux ouvriers et ces personnes qui venaient faire du tort à l'Église? Est-ce qu'ils ont cessé de se monter les uns contre les autres? Au début de la première épître aux Corinthiens, il dit, mais pourquoi l'un est pour l'autre et l'autre? Mais arrêtez, arrêtez. Donc, il a repris toute cette attitude charnelle et il se demande, mais est-ce qu'ils ont bien pris ma lettre? Alors, il souffre. Et dans les versets 12 et 13, il exprime. Il dit, versets 12 et 13, « Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. » Pourquoi Paul a quitté cette petite ville de Troas? Imaginez ça. Le Seigneur l'a amené à Troas, il l'a porté jusque Troas. Son ministère, son appel, c'est prêcher l'évangile de Jésus-Christ. C'est planter des églises. C'est répandre l'évangile dans tout ce bassin méditerranéen. Et lorsqu'il arrive à Troas, Dieu est là. Dieu est avec lui. Dieu le conduit, Dieu le bénit, Dieu lui ouvre une porte. Ça veut dire qu'il y a une vraie sensibilité à l'évangile dans cette ville. Il y a une soif de la parole de Dieu. Les gens de Troas répondent à l'appel. Certains se convertissent. Ils sont vraiment touchés dans leur cœur. Et Paul était exactement en train de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et vous savez, si vous êtes enfant de Dieu, qu'il n'y a rien de plus agréable que de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Quand on est là où Dieu veut qu'on soit et qu'on fait exactement ce qu'il veut qu'on fasse, on a la paix. On est vraiment en paix et voilà, on sait que c'est ça qui est bon. C'est inégalable. Mais pourtant, Paul ne va pas bien. Il ne va pas bien du tout. Pourquoi ? Son esprit est ailleurs. Il pense aux Corinthiens et il est torturé à cette idée. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette grande église de Corinthe ? Et il n'a pas de réponse parce qu'il a envoyé cette lettre et il attend que Tite revienne pour lui donner des nouvelles des Corinthiens. Et Tite ne revient pas. Et alors, eh bien, il tourne tout ça dans son cœur. Il n'endort plus. Il n'endort plus. Il est abattu. Il est découragé. Alors, il annonce à cette église naissante à Troas, « Je dois partir. » Comment ça, Paul ? Tu dois partir ? Tu viens nous prêcher Jésus-Christ ? Tu viens d'arriver ? Plusieurs ont cru, nous croyons en Jésus-Christ, et tu vas partir, tu nous abandonnes ? Non, je dois partir. Je dois partir. Il est écrit que Paul n'avait point de repos d'esprit. Il était trop mal pour continuer comme cela. Il fallait qu'il prenne des nouvelles de ses frères de Corinthe. Alors, il prend congé des frères de Troas et il part pour la Macédoine en direction de Corinthe. Quel est son état lorsqu'il arrive en Macédoine ? En fait, on en a un aperçu un petit peu plus loin. Je vous lis simplement le verset. Et il dit un petit peu plus loin, « À notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. » Donc, voilà comment il se sentait quand il arrive là-bas. Il n'était toujours pas bien. Affligé de toute manière, il y avait des combats à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'était pas bien, il y avait des craintes, il avait le cœur lourd, son âme était vraiment pesante, il n'était pas bien du tout. Donc voilà, avec ces deux petits versets, vous avez quelque chose qui nous décrit son état, quelque chose qu'il a vécu, et c'est intéressant de voir qu'il s'arrête, et soudain, donc il était dans une expression, il exprimait sa souffrance, il s'arrête. Et puis verset 14, « Mais grâce soit rendue à Dieu. » Et là, il change complètement. C'est comme un revirement dans sa vision des choses. Bien sûr, Paul est en train d'écrire quelque chose a posteriori sur ce qu'il a vécu. Mais ici, il s'arrête, il ne veut pas continuer à expliquer sa peine en détail et sa tristesse et ses inquiétudes. Il bifurque au contraire d'une manière soudaine. Pourquoi faire ? Pour lever les yeux et nous entraîner à lever les yeux vers Jésus-Christ. C'est comme s'il dit, je n'avais point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mais grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est comme s'il regarde au passé, il regarde vers ses peines de la terre et soudain, il lève les yeux. Et je vous demande ce matin, quelle est la direction de votre regard ? Vers quoi vous regardez ce matin ? Est-ce que vous regardez en arrière ? Est-ce que vous regardez au passé ? Est-ce que vous regardez à vos problèmes, les problèmes de cette terre ? Est-ce que votre regard est plongé plutôt vers le bas ? Et c'est normal de le faire. Quand on vit des choses difficiles, c'est toujours normal de le faire. Mais faut pas garder son regard vers les choses de la terre et vers le bas. Parce que sinon, après, on glisse et petit à petit, on sombre dans la dépression. Dieu veut qu'on lève les yeux. Il veut qu'on lève les yeux vers lui. Il veut qu'on lève les yeux vers son Fils bien-aimé. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Il ne veut pas rester sur cette peine-là, il se détache de lui-même, il prend de la hauteur. Il s'élève au-dessus de ses souffrances et il regarde soudain à toute chose avec une perspective, qui est divine, qui est céleste. Il regarde les choses d'en haut. Alors, quelle est la vérité ? Et il va utiliser un mot spécial. C'est le mot « triombeo ». Donc, ça a été traduit dans nos Bibles par « triomphe ». Et il y a l'idée ici d'entrer dans le triomphe de Christ. Darby a traduit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ ». Il y a comme la pensée de suivre le char triomphal de Christ. Dans le mot, c'est vraiment ça, un triomphe. Quand on pense à un triomphe romain, hein, c'est l'origine du mot, le triomphe romain, c'était une cérémonie durant laquelle un général vainqueur défilait avec toutes ses troupes, après une éclatante victoire. C'était le plus grand honneur qu'on pouvait donner à un général d'armée. Et il y avait des conditions pour avoir un triomphe. Il fallait être allé soi-même à la guerre. Il fallait avoir totalement vaincu l'ennemi. Il fallait avoir pacifié la région, en sorte qu'il n'y avait même pas besoin de laisser des troupes sur place. Il fallait avoir augmenté le territoire de Rome. Il fallait avoir ramené toutes ses troupes à la maison. Il fallait aussi avoir vaincu un ennemi qui était étranger et libre. Si on essayait de mater un problème dans l'Empire, ben, ce n'était pas un triomphe. Mais il fallait que voilà, ça soit une vraie conquête. Alors bien, un triomphe comme ça, ça n'arrivait pas très souvent. C'était plutôt rare. Et certainement, le triomphe dont ils se souvenaient, c'était le triomphe de César avant Jésus-Christ, quand justement il avait conquis la Gaule, ici. Et qu'il était rentré à Rome, et puis quelques années plus tard, eh bien voilà, il a eu son triomphe dans Rome. Et il y avait tout un ordre dans le défilé. D'abord, devant, en tête, il y avait les politiciens, tout le Sénat, puis il y avait les trompettes qui annonçaient le triomphe. Ensuite venaient tous les trophées qui avaient été remportés dans la conquête que l'on portait. Ensuite venait un taureau blanc qui était destiné à être sacrifié aux dieux. Puis venaient les prisonniers, les princes ennemis, les chefs, les généraux captifs. Puis venaient les musiciens et puis les trompettes avec l'encens, hein, cette odeur qui se diffusait dans le cortège. Alors seulement arrivait le général sur son char, tiré par quatre chevaux, avec un sceptre d'ivoire dans la main, avec l'aigle de Rome, puis un esclave qui tenait cette couronne de triomphe, la couronne d'osier que l'on voit souvent représentée, et derrière lui toute son armée avec toutes leurs décorations et qui criait triomphe, triomphe, triomphe. Vous imaginez la scène qui devait être très impressionnante. Et Paul utilise ce mot et il dit grâce soit rendue à Dieu qui nous mène toujours dans le triomphe de Christ. C'est le triomphe de Christ. Et nous ne sommes pas parmi les perdants. Nous sommes parmi les vainqueurs. Nous faisons partie des vainqueurs. Nous sommes un peuple qui a vaincu et qui vainc. Non pas parce que nous sommes forts, nous sommes faibles, extrêmement faibles. Mais Christ est fort et Christ, lui, a vaincu. Il est le général qui a conduit la bataille et il l'a déjà remportée. Alors c'est certain que on peut vivre des moments qui sont difficiles. Comme Paul, il a vécu des moments d'angoisse, de crainte, de lutte au dehors, de crainte au dedans. Mais la vérité, c'est que nos souffrances, que tous nos manquements, peut-être aussi nos ratés, nos erreurs, ne changeront rien au fait que Christ est le triomphateur. Et nous sommes à sa suite. On le suit et il a triomphé et il triomphe. Il a vaincu le péché, l'enfer et la mort. Ce mot de triomphe en grec, il est utilisé deux fois dans le Nouveau Testament. Et la deuxième fois, c'est dans Colossiens, on peut le prendre ensemble. Regardez Colossiens 2, 13 à 15. Il dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Donc Dieu, non seulement nous a fait grâce pour toutes nos offenses, l'acte qui nous condamnait a été cloué à la croix. C'est fini, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais en plus, eh bien, il dit que voilà, tous ceux qui nous accusent, toutes les puissances d'en haut, l'ennemi, le diable, fait partie du cortège, mais comme vaincus. Ils ont été vaincus. C'est un triomphe total sur l'ennemi. Ils ont été anéantis par la croix. J'ai toujours été frappé, en lisant l'Apocalypse, de voir avec quelle facilité Dieu va enchaîner le diable. Il envoie un ange, seulement un ange, qui enchaîne le diable et qui le jette en prison pour 1000 ans. Hein. C'est incroyable. Pourtant, c'est l'ange, on a l'impression qu'il est le plus fort. Hein. Mais non, un seul ange et c'est terminé. Pourquoi ? Parce qu'il est vaincu. Vaincu par le Dieu créateur hein, qui le domine et qui règne au-dessus de lui. Et il faut qu'on remette tout ce que nous vivons dans la perspective du ciel et de l'éternité. Dieu est en train de faire concourir toutes choses à notre bien, constamment, au cours de notre vie. Et il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Parfois, on peut avoir le sentiment, mais là, il semble que tout voilà, est en train de se déliquéfier. Non, rien n'échappe à son contrôle. Il règne au-dessus. Même si parfois on prend de mauvaises décisions, il règne au-dessus. Et sa volonté, c'est qu'on soit une bénédiction partout où nous allons. C'est intéressant de peser les mots de Paul après ce qu'il vient d'expliquer. Quand vous lisez les versets 12 et 13, donc de notre passage, les premiers versets, où Dieu dit qu'il l'a béni, il nous révèle que Dieu l'a béni, Dieu lui a ouvert une porte à Troas. Mais voilà, il préfère partir parce qu'il n'a pas la paix, parce qu'il se soucie des Corinthiens. Logiquement, il devait rester à Troas, mais pourtant, il part pour la Macédoine. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé, ça ? Vous savez que vous devez être quelque part, hein, mais finalement, vous prenez une décision et puis vous allez autre part. Parfois, ça nous arrive. Hein. Moi, personnellement, de savoir que j'ai raté une porte, c'est-à-dire que j'ai raté la volonté de Dieu, que j'aurais dû être là, mais je suis là, ça me mine. Ça me mine. Ça m'anéantit presque. Hein. C'est quelque chose de difficile. Ça peut nous plonger dans le découragement. Et je trouve intéressant que Paul dise « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. » C'est intéressant parce qu'il dit ça juste après avoir dit qu'il savait que la volonté de Dieu, c'était bon qu'il soit à Troas. Il dit « Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Il répand partout, en tout lieu, où que nous soyons, l'odeur de sa connaissance. » Et même si parfois, on peut avoir le sentiment que nous n'avons pas fait le bon choix ou nous n'avons pas fait le choix de Dieu à un instant, il faut lever les yeux. Il faut lever les yeux vers le Seigneur. Au-delà de mes petits choix, au-delà de mes décisions, eh bien, Dieu règne. Et il veut m'entraîner à la suite de son triomphe. On est derrière son char triomphant et on va vivre pour Jésus-Christ et continuer à vivre pour Jésus-Christ. Et Dieu va se servir de moi, où que je sois. Bien sûr, on cherche à faire la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on lui obéisse, c'est clair. Mais tout n'est pas raté si à un moment donné, nous n'avons pas pris la bonne décision. Il y a comme une porte où, voilà, on n'a pas pris la bonne porte. Dieu n'est pas surpris. Il n'est jamais pris au dépourvu. Oh mince, il s'est trompé. Non, il sait exactement, il connaît nos vies. Et il est suffisamment puissant pour nous faire rebondir et continuer à sa suite. Nous entraîner dans son triomphe. Aussi, Paul dit que Dieu répand par nous l'odeur de sa connaissance. Bien sûr, Dieu peut se révéler à quiconque comme il le veut. Joseph nous partageait le témoignage de ce musulman qui a eu cette vision du Seigneur. Et c'est clair, Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut, dans un pays complètement fermé, se révéler à quelqu'un. Mais il a choisi de se révéler par nous, par ses enfants. Il a choisi que ce soit par nous que l'odeur de sa connaissance se répande, se diffuse. Et nous le connaissons parce qu'il demeure en nous, par son esprit, alors eh bien, nos vies, elles peuvent exhaler sa bonne odeur. Et c'est vrai que chacun peut être dans sa petite routine quotidienne, dans son travail, sa famille, ses responsabilités, mais il ne faut pas perdre de vue que nous avons un trésor qui est inestimable. Nous avons la connaissance de Dieu. Nous connaissons Dieu. C'est quelque chose, ça. Nous, Nous connaissons, pas le président de la République, nous connaissons Dieu, nous connaissons le Créateur. C'est quelque chose d'incroyable. Et c'est une chose de dire « je crois en Dieu ». Il y a plein de gens qui disent « je crois en Dieu ». Mais dire « je connais Dieu » personnellement, c'est mon frère, c'est mon ami. C'est immense, quoi, connaître Dieu. Même les gens ont du mal à le croire. Oui, tu connais Dieu, oui, moi aussi. Ils ne le croient pas, mais c'est une réalité. Nous connaissons Dieu. Regardez ce que dit Jésus. Jean 14, 16 à 17. Je vous lis le 15 rapidement. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Et ici, il dit, tous les disciples de Jésus connaissent le Saint-Esprit. Le monde ne le connaît pas. Le monde ne le voit pas. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ ne le voient pas. Mais tous les disciples de Jésus connaissent le Saint-Esprit. Et même, il demeure avec eux. Et plus, depuis la Pentecôte, il demeure en nous. Il entre dans notre cœur. Et c'est ça qui fait que nous avons une connaissance intime, une proximité avec Dieu. Nous le connaissons. Nous le connaissons vraiment. Nous sommes de ses brebis. Et ça, c'est un trésor. On ne peut parler que de ce que nous connaissons. On ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Et nous, nous le connaissons. Donc, nous pouvons parler de Dieu. Nous pouvons parler de cette connaissance. Nous pouvons la partager parce qu'elle est réelle. Elle est dans notre cœur. Et il faut répandre son odeur, il faut la diffuser. Et sauf un miracle exceptionnel que Dieu peut faire parfois, sauf un miracle exceptionnel, c'est par nous que l'odeur de sa connaissance va se répandre. Dieu a choisi que ce soit comme ça. Donc c'est à nous de répandre cette bonne odeur de Christ. Est-ce que cette bonne odeur se répand autour de nous? Logiquement, il devrait y avoir un cercle qui englobe nos connaissances, notre vie professionnelle, notre famille, nos voisins, hein, comme un nuage de son odeur, hein, qui se répand autour de nous. C'est quelqu'un qui n'exprime pas, hein, ne manifeste pas cette odeur, il y a un problème. Il faut normalement, eh bien, avoir cette odeur qui se répand. Vous avez remarqué comment des odeurs fortes peuvent facilement marquer les odeurs qui sont agréables. Par exemple, vous êtes dans une gare, hein, et puis il y a une personne qui passe, et il y a un bon parfum, là, vous le sentez. Puis deux minutes après, il y a un monsieur qui arrive, qui ne s'est pas lavé depuis 6 jours, et qui sent la sueur, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Hein. La sueur, mais grave, et là, ça vient vous ruiner la bonne odeur que vous aviez sentie juste avant. Jésus-Christ a mis son parfum en nous. Et l'odeur de sa connaissance, c'est une odeur qui est légère, une odeur qui est agréable, une odeur qui est attirante. Et si on marche avec lui, si on demeure en lui, alors ben c'est ce parfum-là qui va s'exhaler de nos vies, qui va se répandre. Et on n'a rien à faire que de vivre en lui, que de demeurer en lui, de fixer notre attention sur lui et voilà. Le parfum s'exhale. Une odeur, c'est quelque chose qui s'imprègne partout. L'odeur, elle se fixe sur la vie d'une personne, sur ses vêtements, sur ses cheveux, dans son foyer, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Hein. Moi, j'ai plus trop d'odorat avec les allergies. Mais des fois, Kimberly, elle dit « Ah, il y a cette odeur-là, et moi, je sens rien du tout. » L'odeur de sa connaissance, elle imprègne la vie de son enfant qu'il aime, qui veut marcher avec lui. Pourquoi ? Parce que Dieu opère une transformation dans sa vie, dans son cœur, et tout change. Nos habitudes changent, nos désirs changent, nos choix, voilà ce que nous aimons, nos aspirations. Alors, eh bien, l'odeur de celui qui le connaît, c'est une odeur qui est différente. Différente de celle du monde, de celle du péché. Versets 15 et 16, regardez ce qu'il dit. « Nous sommes, en effet, pour Dieu, le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Et nous sommes le parfum de Christ pour Dieu. Quand le parfum de mon épouse arrive en bas, j'ai le plaisir à acheter un nouveau flacon, parce que c'est agréable de sentir la bonne odeur d'une personne que l'on aime. Et Dieu a mis en nous l'odeur de son Fils, celle de Christ. Et il se plaît à sentir cette odeur en nous. C'est pour lui que nous sommes le parfum de Christ. C'est d'abord pour lui que nous sommes un parfum de Christ. Mais c'est aussi au milieu des sauvés et des perdus. Et nous sommes les porteurs d'un message, un message de vie ou un message de mort, puisque notre message est un message qui apporte soit le salut, soit la condamnation. Il y a les deux en même temps. Soit il est reçu, soit il n'est pas reçu. Et c'est le résultat est malgré nous. On n'y peut rien. On apporte simplement le message et c'est la réaction des gens face à cette odeur qui vont l'accepter ou qui vont le rejeter, qui vont le refouler. C'est une odeur d'amour, c'est une odeur de pardon, une odeur de grâce, une odeur de miséricorde, mais c'est aussi une odeur de pureté, de sainteté et de justice. Alors certains détestent cette odeur et d'autres sont attirés. Ils ont envie d'en prendre davantage. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Et c'est une vérité qui est terrible. On doit comprendre que si quelqu'un refuse la bonne odeur de Christ, eh bien il est responsable. Il est responsable devant Dieu. Et c'est un choix intérieur qui est fait en son âme et conscience. C'est un choix finalement un refus du bon, du vrai, du juste, du saint, du pur. Et c'est dramatique et lourd de conséquences. Mais c'est à ce quoi Dieu nous appelle. Être une odeur de vie qui donne la vie ou une odeur de mort qui donne la mort. Paul dit, et qui est suffisant pour ces choses? Qui est à la hauteur d'un tel ministère? Qui peut remplir une telle responsabilité? Et on se dit, Seigneur, voilà. On se sent faible, mais Dieu dit, ben, c'est vous. C'est vous qui allez le faire. Dieu veut qu'on le fasse, il nous le demande. Nous sommes pour Dieu le parfum de Christ sur terre. Et nous n'allons pas arrondir le message pour plaire à tout le monde. Certains ne veulent pas être une odeur de mort, ils voudraient être qu'une odeur de vie. Alors on peut édulcorer le message et il n'est jamais question de condamnation, il n'est jamais question de jugement. On ne parle pas de ces choses. On va parler que de l'amour, que du pardon. Mais ce n'est plus le parfum légitime de Christ. Il n'y a plus tous les ingrédients qui font que c'est la bonne odeur de Christ. Peut-être qu'il y a la senteur de l'amour, de la grâce, mais il manque quelque chose, ce n'est plus le parfum qui est authentique. Paul dit, verset 17, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Une autre traduction dit « Car nous ne sommes pas comme plusieurs qui frelatent la parole de Dieu. » Il y a l'idée de corrompre les Écritures, corrompre la parole de Dieu. Comme par exemple quand on va transvaser un liquide et le retransvaser, et petit à petit, on va affaiblir la nature du liquide. On peut parler de dilution finalement. On dilue petit à petit. Et on peut diluer un parfum. D'ailleurs, il y a parfum ou extrait de parfum. C'est voilà, le plus fort. Ou bien il y a l'eau de parfum ou l'eau de toilette. Donc là, on est en train de diminuer petit à petit. Et on peut aussi diluer la parole de Dieu, diluer la vérité. Et c'est ce que faisaient certainement ces faux docteurs. C'est pour cela qu'il en parle ici. Dieu ne veut pas qu'on frelate sa parole. Mais il faut en parler de quatre manières. Il dit, il faut en parler d'abord avec sincérité. C'est-à-dire avec des intentions qui sont pures. On n'essaye pas de tromper, de piéger, mais il y a un vrai souci de faire du bien et d'apporter cette bonne odeur de sa connaissance, que tous puissent le connaître, l'adorer en esprit et en vérité. De la même manière que Jésus a porté un message de vie. Il disait, mais venez à moi, vous tous qui avez soif. Mais en même temps, il disait, Voilà, si quelqu'un me suit, mais qu'il porte sa croix et qu'il renonce à lui-même. Donc, il y a cette vie, mais le message est complet. Et il ne faut pas abandonner une partie du message, mais donner un message qui est complet, en parler avec sincérité de tout son cœur. Ensuite, il dit, nous en parlons de la part de Dieu. Nous avons un mandat. Nous avons ce mandat de Dieu. C'est Dieu qui nous dit d'en parler. Il nous envoie pour en parler. Et nous avons son autorité, sa capacité qui nous est accordée. Ensuite, il dit, nous en parlons en Christ. Et pour être un bon parfum de Christ, eh bien, c'est clair qu'il faut rester en Christ. C'est par Christ que nous sommes ce bon parfum. Et puis finalement, il dit, nous en parlons aussi devant Dieu. Et Dieu nous connaît, Dieu nous voit, nous sommes responsables aussi de la manière par laquelle eh bien, nous présentons Jésus-Christ. De là, l'importance de rester en lui, de demeurer en lui. Paul, en cela, était irréprochable. Il avait un vrai souci de l'autre et de l'amour de l'autre, et toute sa lettre est criante de cette vérité. Mais je termine et conclue par cette dernière parole. Il dit, « Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Et nous sommes de fait, un parfum de Christ pour ceux qui sont sauvés ou ceux qui périssent, de fait, parce que Christ habite en nous. Et logiquement, toute vie qui lui appartient, elle exhale son parfum. Mais Dieu nous demande aussi de parler. Il dit, nous parlons en Christ. Et en cela, on peut aussi être une eau de toilette très diluée, ou bien un extrait, un vrai parfum. Quelqu'un qui ne dit jamais rien de sa foi, ne partage jamais rien de Jésus-Christ, cache même sa foi. Elle est comme une eau de toilette, hein, voilà, ça sent, mais c'est vraiment léger, quoi, hein, c'est très, très léger. Et Dieu veut qu'on soit plus que cela. Il dit en Timothée que nous avons reçu un esprit qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse, hein, qui nous donne la force et la puissance d'être plus qu'une eau de toilette, hein, d'être un vrai parfum, un vrai extrait de Jésus-Christ. Et nous, on a un immense trésor. C'est le trésor de le connaître personnellement. Certains pensent qu'il n'est pas possible de connaître Dieu. D'autres pensent que le connaître, c'est dans la pratique de rites ou de traditions. C'était intéressant, Cathy avait donné une petite vidéo qui montrait comment, eh bien, dans l'islam, on apprenait aux enfants à prier. Et c'est très compliqué, hein. Il y a énormément de choses, hein, entre la purification, les ablutions, les gestes, les prières répétées, etc. Enfin, c'est vraiment compliqué, même, je me dis, pour un petit enfant à apprendre, hein. Mais une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on se dit, il y a de la consistance. Voilà, je fais quelque chose, hein. D'ailleurs, c'était un peu la pensée que Farida, vous souvenez Farida, elle expliquait dans son témoignage qu'elle se disait, mais moi, au moins, je me purifie pour prier, je ne m'approche pas de Dieu comme ça, parce qu'elle avait prié avec des missionnaires qui s'étaient adressés à Dieu comme ça, simplement. Et puis soudain, alors qu'elle se faisait cette réflexion en disant « mais quand même, je suis meilleur qu'eux », il y a cette pensée, certainement du Saint-Esprit qui lui est venue « mais eux, ils me connaissent ». Et c'est toute la différence. Nous connaissons Dieu, nous lui parlons et il y a une relation qui est vraie, qui est pure et qui est vivante. Hein. Je lui parle, il me répond. Je fais quelque chose, eh bien, il agit en fonction de ce que je fais. Il se révèle à moi. Et ça, c'est unique, c'est précieux, c'est un trésor. C'est un trésor d'avoir cette connaissance de Dieu et on ne peut pas ne pas la partager autour de nous. Il faut la répandre. Il faut voilà, que le parfum de Christ puisse paraître. Et c'est aussi, eh bien, par la parole, en parlant de lui. On a le plus beau des messages,